Ouais, ils m'ont dit il faut faire un générique. Les abeilles, ça s'appelle. Aïe.
Les abeilles. Ah. Ah non, mais là, je préviens mon gars. Les abeilles.
Vous avez pu le constater dans le générique, nous allons donc cette année, chers clients, revenir au naturel. Voilà donc pourquoi nous sommes sortis du studio de Radio Grand Ciel pour aller enregistrer l'émission dans la campagne. Bien avant que les ingénieurs et la cybernétique nous abrutissent tout à fait, les mots avaient un sens. Ainsi, un légume normal, c'est-à-dire poussé normalement, est devenu bio. Complètement hébété par le marketing, il nous faut toujours plus de fumée pour ne pas voir le mur. Les ingénieurs construisent, eux, savamment le mur que d'ici peu, nous allons prendre à pleine vitesse. Pour l'illustrer, premier exemple, ce fabuleux insecticide, maintenant presque disparu, le crapaud. Vous verrez, enfin en écoutant bien sûr, pourquoi nous avons débuté par le crapaud. Vous savez, Alexei, mon comparse du loup, eh bien Alexei s'est retransformé en crapaud. Allez, fais péter le son.
But my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch ring. dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
J'avoue que j'aime le crapaud. Bien qu'il soit hideux et couvert de pustules, qu'il rampe sur un ventre jaune sale, qu'il ait la démarche grotesque et qu'il se plaise au fond des vieux trous ou sur la bourbe des eaux croupies, cet animal ne m'inspire aucune répulsion. Je n'ai nul dégoût à le prendre dans ma main et à lui dire les paroles de tendresse niaise que murmurent les concierges aux oreilles de leurs affreux roquets. Que de poignées de main j'ai donné à des hommes dont la peau était peut-être plus blanche, mais dont l'âme était infiniment plus immonde que celle du crapaud. Car n'en doutez pas, s'il est vrai que l'homme possède une âme, le crapaud, le pauvre crapaud, en possède une aussi, et combien meilleure. L'avez-vous observé quand, après avoir aidé sa femelle à se débarrasser de ses œufs, il enroule lui-même autour de ses propres cuisses les précieux chapelets. Il les porte partout avec lui, plus prudent, plus ingénieux que jamais, de façon à ce qu'aucun de ses œufs ne se détache et, lorsqu'ils sont prêts d'éclore, il les dépose dans une mare, au meilleur endroit, et les défend courageusement contre les salamandres et les mourons. Il n'y a pas, dans toute la création, un être plus haï que le crapaud. Les femmes, à sa vue, poussent des cris d'horreur, et si, par malheur, son corps a frôlé le bout de leur jupe, elles s'évanouissent. L'ignorante brutalité du passant lui déclare une guerre sans merci. Quand, après les averses, on le rencontre par les chemins qui sautillent gauchement sur ses pattes courtes et plissées, on l'assomme d'un coup de bâton, on lui lance des pierres qui l'écrasent. C'est un maudit, maudit comme le serpent de ville que les surins guettent au détour des rues nocturnes, comme le gendarme dont on retrouve le corps mutilé au fond d'une marnière près du bois hanté des braconniers, comme tout cela qui se dévoue à une œuvre juste, utile et bienfaisante, sans aucune récompense que le mépris et la haine des foules. Ce n'est point seulement à cause de sa laideur qu'on le déteste, c'est surtout à cause de la mission à la fois protectrice et justicière qu'il accomplit dans la nature. Le crapaud détruit les larves qui coupent les moissons par la racine, font se flétrir les blés et se dessécher l'herbe des prairies. Il pourchasse impitoyablement les insectes qui dévorent les bourgeons, les limaces, les chenilles, les vers immondes qui corrodent les fleurs. Leurs baves pourrissent sur les branches les fruits encore verts. Besogne ingrate, et qui semble à celle de ces Don Quichotte imbéciles qui veulent préserver des larves humaines les beaux fruits d'intelligence, les belles fleurs d'art, les belles semences de patriotisme, ne rapportent que des orions et des risées. Malheureux crapaud, quand donc cessera-t-on de te poursuivre, de te jeter des pierres, de t'assommer ainsi qu'une bête malfaisante, toi, l'auxiliaire résigné du laboureur, le protecteur au nid des jardins, le conservateur des trésors de la terre, toi qui, malgré ta mine basse et les verrues de ta carcasse rugueuse, devrais être le premier parmi les animaux sacrés, comme tes sœurs, les hirondelles et les cigognes, comme tes frères, les roitelets. Quoi, qu'est-ce que tu dis ? Oh là là, vas-y, envoie-le ton disque.
They say he wandered very far, very far. lucky day he passed my way. Then we spoke of many things, fools and kings. This he said.
Je marchais dans un chemin de traverse bordé à droite et à gauche de bourdaines épaisses et de souches d'ormes courtes, trapues, mangées de polypes monstrueux et creusées de trous noirs. Il avait plu. Maintenant l'eau s'égouttait à la pointe de chaque feuille, en perles brillantes que le soleil irisait. Derrière les haies, les champs, mouillés par l'averse, fumaient, et l'on apercevait sur une branche morte de pommier des oiseaux bouffis qui secouaient leurs plumes. Sur le talus du chemin, entre les ronces et les brins d'herbe, quelque chose de sombre s'agita. Je m'approchai et je vis un crapaud, un vieux crapaud à la peau grumeleuse et crevassée qui, fort empêtré dans la broussaille, fuyait vers un gros tronc d'orme dont les racines à nu posaient sur le talus comme les serres d'un immense épervier. J'observai le crapaud. Avec beaucoup de difficulté, il arriva au pied de l'arbre, juste au-dessous d'un trou qui, à la hauteur de 50 cm, bâillait tristement dans l'écorce de l'orme. De ses deux pattes de devant, le crapaud s'appuya fortement contre l'arbre. Lorsqu'il se sentit bien suspendu, il fit un mouvement et son ventre se colla contre l'écorce, faisant l'office de ventouse. Ses pattes alors se détachèrent pour s'élever plus haut. C'est ainsi qu'il atteignit le trou par où il disparut. Cet exercice m'avait émerveillé et je pensais que le crapaud qu'il avait aussi délicatement exécuté devait être un vieux routier, habile en plus d'un tour et d'une intelligence rare, comme sont les vieux crapauds. Je cueillis une belle mûre sauvage, je la piquai au bout d'un brin d'herbe et l'introduisis dans le trou de l'arbre en ayant soin de la faire aller et venir pour exciter la curiosité et la gourmandise de mon batracien. Au bout de quelques minutes, je sentis que la mûre avait été gobée. J'en pris une nouvelle, et celle-ci ne tarda pas à être mangée. À la troisième, le crapaud se présenta au bord du trou. Quoi ? Tu sais quoi ? T'es moins drôle en crapaud. Hein. Allez, la prochaine fois, choisis un autre truc. Hein. Bon, allez, vas-y, tu m'énerves, mets du son.
Weißt du, mit wie viel Scham die große Stadt Berlin für uns erwacht? Wie sie noch müde mit dem einen Auge weint, dem anderen lacht. Es ist 5 Uhr, Berlin erwacht. Berlin erwacht. Der alte Funkturm blinzelt müde noch ins erste Sonnenlicht. Ein Bäckerjunge fährt die Brötchen aus dem Schlaf noch im Gesicht. Es ist 5 Uhr, Berlin erwacht. Berlin erwacht. Der erste Bus fährt hat mich vom Grunewald direkt zum Bahnhof Zoo. Vom letzten Kuss in einer Bar am Rand der Stadt, ich weiß nicht wo. Es ist 5 Uhr, Berlin. Erwacht, Berlin. Erwacht. Der Kudamm fasziniert auch ohne seinen hellen Neonschein. Gleich um die Ecke steigt ein Go-Go-Girl in eine Taxe ein. Es ist 5 Uhr, Berlin. Erwacht.